Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour certains diplômés, l'apocalypse de l'IA, c'est maintenant. Un texte de Kevin Roos du New York Times, paru le 5 juin 2025 dans la presse. Des millions de jeunes diplômés postuleront dans des industries qui les trouvent chères et non indispensables, qui se détournent de leurs compétences et qui sabrent les effectifs au profit de l'intelligence artificielle. C'est ce que révèlent des entretiens récents avec des économistes, dirigeants d'entreprises et jeunes demandeurs d'emploi. On voit poindre une crise pour ces jeunes travailleurs qui semblent causés, au moins en partie, par les progrès rapides de l'intelligence artificielle. Elle transparaît dans les statistiques. Le chômage des récents diplômés a bondi à un niveau inhabituellement élevé de 5,8% ces derniers mois, et la Réserve fédérale de New York signale une détérioration notable de l'emploi pour ces travailleurs. Selon Oxford Economics, un cabinet de recherche qui étudie le marché du travail, le chômage des jeunes diplômés se concentre dans les domaines techniques comme la finance et l'informatique, où l'IA avance le plus vite. L'approche IA d'abord. Ce qui se lit dans les statistiques pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Selon de nombreux cadres, les entreprises automatisent rapidement le travail du débutant et les sociétés d'IA développent des travailleurs virtuels pouvant remplacer les juniors à une fraction du coût. On constate aussi un changement dans l'attitude des entreprises. Certaines entreprises prônent l'approche IA d'abord, encourageant les cadres à toujours voir si une tâche peut être effectuée par l'IA avant d'embaucher un humain. Selon un dirigeant du secteur techno, son entreprise a cessé toute embauche à un niveau inférieur à un ingénieur logiciel L5, entre 3 et 7 ans d'expérience, parce que les tâches de niveau inférieur peuvent désormais se faire avec un outil de codage d'IA. Selon un autre dirigeant, sa jeune pousse n'emploie plus qu'un seul expert en sciences des données pour accomplir le genre de tâches qui demandait une équipe de 75 personnes dans son ancienne entreprise. Des anecdotes de ce genre n'expliquent pas à elles seules le haut niveau de chômage chez les diplômés universitaires. Selon les économistes, de multiples facteurs sont à l'œuvre, comme le ralentissement de l'embauche dans les grandes entreprises technologiques, et l'incertitude causée par la politique économique de Donald Trump. Mais, chez ceux qui scrutent l'évolution de l'IA, des voyants rouges commencent à clignoter. J'entends parler de cas de ce genre un peu partout, affirme Molly Kender, qui étudie l'impact de l'IA sur les travailleurs à la Brookings Institution, un groupe de réflexion sur les politiques publiques. Les employeurs disent: l'IA est tellement bonne que je n'ai plus besoin d'analyste marketing, d'analyste financier et d'assistant de recherche. Fantasme de longue date. Automatiser les emplois de col blanc fait rêver les dirigeants depuis des années. Ce fantasme avait animé la conférence de Davos en 2019. Mais la technologie n'était pas assez bonne. On pouvait utiliser l'IA pour certaines tâches routinières, des services de soutien, ce qui s'est beaucoup fait, mais dans les tâches plus complexes et techniques, l'IA n'allait pas à la cheville des humains. Ça commence à changer, en particulier dans des domaines comme le génie logiciel, où on voit clairement si le code marche ou pas. Dans ces domaines, les systèmes d'IA peuvent être formés à l'aide d'un processus d'essai et d'erreur, l'apprentissage par renforcement, afin d'exécuter eux-mêmes des séquences d'actions complexes. À terme, ils apprennent à faire vite des tâches que des travailleurs humains mettraient des heures ou des jours à réaliser. Anthropic, la société d'IA qui offre le robot conversationnel Claude, a fait une démonstration de cette approche le 22 mai 2025. Son modèle le plus puissant, Claude Opus 4, peut maintenant coder sans interruption pendant plusieurs heures selon Anthropic. une perspective alléchante pour toute entreprise qui paie aujourd'hui des salaires à 6 chiffres à des ingénieurs pour obtenir une telle productivité. Des dizaines de professions dans le viseur. Les entreprises d'IA commencent par le génie logiciel et d'autres domaines techniques parce qu'ils sont le plus facilement automatisables et sans doute parce que les salaires y sont les plus élevés. Mais ces entreprises pensent que les mêmes techniques pourront bientôt automatiser le travail dans des dizaines de professions, du conseil à la finance en passant par le marketing. Selon Dario Amodei, PDG d'Anthropic, l'IA pourrait éliminer la moitié des emplois de col blanc de niveau débutant d'ici 5 ans. Même si l'IA ne dévore pas tous ces emplois de niveau d'entrée, 2 tendances sont inquiétantes. D'abord, dans cette course à la productivité, certaines sociétés pourraient se tourner vers l'IA trop tôt, avant que les outils soient assez robustes pour gérer tout le travail des débutants. C'est arrivé chez Klarna, une fintech suédoise de crédit à la consommation qui a remplacé en 2023 ses agents du service client par des robots d'IA. Après un déluge de plaintes, elle a fait marche arrière et réembauché des humains. Certains dirigeants font le pari que les systèmes d'IA s'amélioreront rapidement ou que l'argent économisé en éliminant des travailleurs vaut bien quelques clients mécontents. Tous ne mesurent pas nécessairement ce dans quoi ils s'embarquent. Ensuite, même si les emplois d'entrée ne disparaissent pas tout de suite, prévoir leur disparition rapide pourrait inciter les entreprises à sous-investir dans la formation professionnelle, le mentorat et l'encadrement des jeunes, se privant ainsi d'une relève compétente. Personne n'a la patience ni le temps de tenir la main à quiconque dans ce nouvel environnement où beaucoup de travail peut être fait par l'IA, observe Heather Doshi, responsable du personnel au capital risqueur Signal Fire. Sauve-toi toi-même. S'il y a un seul côté positif à la situation actuelle, c'est que certains jeunes diplômés réagissent à la menace de l'IA en se prenant en main. Certains jeunes utilisent leur aise avec l'IA pour se hisser devant des collègues plus expérimentés, et d'autres évitent complètement les professions traditionnelles où l'on gravit les échelons. Trevor Chow, 23 ans, tout récent diplômé de l'Université de Stanford, raconte que sa cohorte tient compte des progrès de l'IA dans sa recherche d'emploi. Rares sont ses camarades qui s'orientent vers les carrières traditionnelles en technologie et en finance, dit-il. Beaucoup préfèrent le risque de créer une entreprise. On se dit que si les humains sont sur le point de se faire remplacer par l'IA, on ferait aussi bien de se rouler les manches et d'essayer quelque chose de gros. On a le sentiment qu'il ne reste pas grand temps, dit-il. Là où l'avantage de l'humain devient négligeable, tout parcours professionnel qui requiert de nombreuses années avant d'être rentable n'en vaut pas la peine. C'était, pour certains diplômés, l'apocalypse de l'IA, c'est maintenant, un texte de Kevin Roos du New York Times, paru le 5 juin 2025 dans La Presse.
Comment se défendre comme les hommes forts? Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 1er juin 2025 dans La Presse. Que doit faire un enfant quand on l'intimide dans une cour d'école? Il doit en parler à son professeur, fait remarquer Justin Massy, qui enseigne la science politique à l'Université du Québec à Montréal. Mais on ne peut pas le faire en relations internationales. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Donc, ou bien on plie, ou bien on se défend, plaide-t-il. J'ai interrogé ce professeur, qui est aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique canadien sur les façons dont le Canada devrait réagir dans ce monde où les démocraties libérales sont désormais menacées par les dirigeants autocratiques et autres hommes forts aux quatre coins du monde. Dans le monde d'hier, régnait l'ordre international basé sur des règles, précieux atout pour une puissance moyenne, comme le Canada. Dans le monde d'aujourd'hui, cet ordre est en train d'être torpillé non seulement par des régimes comme ceux de la Chine et de la Russie, mais par l'administration de Donald Trump. Alors que faire? La réponse courte est d'une simplicité désarmante. Elle tient en deux mots: se défendre. C'est le principe général, il faut se défendre parce qu'on sait que certains intimidateurs reculent, dit-il, citant l'exemple de Donald Trump qui a été récemment traité de « taco » par un journaliste britannique. L'acronyme signifie en anglais « Trump always chickens out », c'est-à-dire « Trump se dégonfle toujours ». La réponse longue nous permet d'aborder chacun des outils qui se trouvent dans les coffres de nos élus. Investir en défense pour améliorer nos capacités sur le plan militaire, par exemple. Parce qu'il faut renouer avec l'autonomie stratégique, affirme Justin Massy. C'est-à-dire réduire notre vulnérabilité, avoir une plus grande capacité de décision et de prise d'action indépendante des États-Unis, ajoute-t-il. L'idée n'est pas qu'on va faire la guerre aux États-Unis ou qu'on va contrer une attaque américaine. C'est de dire « on n'a pas besoin de votre aide pour sécuriser notre territoire ». Dans le même ordre d'idées, il faudrait renforcer notre économie, diversifier nos partenaires en matière de commerce pour ne plus dépendre autant des États-Unis et se doter d'une stratégie industrielle mieux conçue, notamment en matière de défense, justement. Pour ne pas envoyer des milliards de dollars dans l'industrie américaine et pour développer une capacité et un savoir-faire en intelligence artificielle, dans les drones, dans la surveillance, les radars, les satellites, les infrastructures terrestres, etc. Si on veut que notre démocratie résiste mieux à la guerre menée par les régimes autocratiques, il faut également lutter contre la désinformation avec vigueur. Il faut avoir une information plus transparente et plus accessible. Et ça passe d'abord par un gouvernement plus honnête et transparent, avance M. Massy. Mais ça va aussi de pair avec des journalistes qui investissent davantage les plateformes utilisées par les plus jeunes, comme YouTube et TikTok, estime-t-il. N'oublions pas que Meta censure les nouvelles au Canada sur Facebook et Instagram, mais laisse s'y répandre la désinformation. Il faut rendre l'information accessible facilement et rapidement à toutes les couches de la société, en particulier la nouvelle génération, qui n'est pas une habituée des médias traditionnels. Les jeunes hommes, notamment, qui sont une des cibles des mouvements d'extrême droite et des tentatives de désinformation, explique l'expert. Pour faire face aux hommes forts qui se coordonnent plus qu'auparavant pour affronter les démocraties libérales, il importe enfin de renforcer nos alliances et d'améliorer l'efficacité de notre diplomatie. On ne peut pas jouer seul, on est trop petit. Il faut donc des alliances multilatérales. Le Canada doit s'allier avec des pays qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, notamment sur la désinformation. Et l'Union européenne est ici le parfait allié pour le Canada. Elle a aussi des lois sur la protection contre les discours haineux et la désinformation sur les plateformes, que les États-Unis veulent d'ailleurs faire changer, souligne Justin Massy. Ensuite, Ottawa doit s'impliquer davantage dans les diverses institutions multilatérales comme l'ONU et l'OTAN. On ne doit pas se recroqueviller en Amérique du Nord en disant Dans un monde aussi dangereux, on va juste s'occuper de nos affaires et pas de celles des autres. Parce qu'on va être nous-mêmes en situation de vulnérabilité face au régime américain, face à la Russie, qui convoite aussi le territoire canadien, et face à la Chine, qui a des ambitions, comme la Russie, dans la région arctique. Le Canada n'est-il pas déjà un champion du multilatéralisme? N'a-t-il pas déjà d'excellents liens avec la plupart des autres démocraties libérales? Oui, mais, répond Justin Massy, les diplomates étrangers disent que le Canada est toujours présent, mais qu'il prend des notes. On n'est pas une force de proposition. Le Canada a pourtant déjà été proactif sur la scène internationale. Lorsque Brian Mulroney et ensuite Jean Chrétien, surtout lorsque son chef de la diplomatie était le dynamique Lloyd Axworthy, étaient à la tête du pays, par exemple. Les diplomates d'aujourd'hui auraient tout avantage à s'en inspirer. Car à l'ère de l'intimidation, alors que les dictateurs s'associent pour diriger le monde, la meilleure façon de se défendre n'est pas de rester les bras croisés. C'était « Comment se défendre comme les hommes forts », un texte d'Alexandre Sirois paru le 1er juin 2025 dans la presse.
Affichage et exactitude des prix, ce qu'il faut savoir. Un texte de l'Office de la protection du consommateur paru le 15 mai 2025 dans Virage. Vous est-il déjà arrivé de vous présenter à la caisse d'un magasin et, au moment de payer, de constater que le prix enregistré ne correspond pas au prix que vous aviez vu? Que pouvez-vous faire et comment pouvez-vous être dédommagé en cas d'erreur de prix? Les commerçants doivent indiquer le prix de vente de tous leurs produits, soit en annonçant les prix sur chacun, soit en utilisant des étiquettes de prix à proximité et des lecteurs optiques de code-barre à la caisse. Peu importe le système utilisé, ils ne peuvent pas vendre leurs produits plus chers que les prix qu'ils ont annoncés. Et la politique d'exactitude des prix. Lorsque les prix des articles sont annoncés sur les tablettes et lus à l'aide de lecteurs optiques, c'est la politique d'exactitude des prix qui s'applique en cas d'erreur de prix défavorable aux consommateurs. Elle s'applique dès qu'un produit est enregistré à la caisse et que le prix est supérieur au prix annoncé, que la transaction soit terminée ou non. Notons qu'il existe certaines exceptions. Par exemple, la politique ne s'applique pas aux produits sans code-barre ni aux vêtements. Hausse du dédommagement en cas d'erreur de prix. Le 7 mai dernier, le montant du dédommagement prévu dans la politique pour une erreur de prix est passé de 10 à 15 $. Ainsi, si le prix réclamé à la caisse est plus élevé que le prix annoncé, en magasin, dans une circulaire, une publicité, etc., le commerçant doit vous remettre l'article gratuitement s'il est annoncé à 15 $ ou moins, vous offrir un rabais de 15 $ par rapport au prix annoncé si l'article est annoncé à plus de 15 $. Si l'erreur est en votre faveur, c'est-à-dire si le prix enregistré à la caisse est moins élevé que le prix indiqué en magasin, vous n'avez pas droit à ce dédommagement. Vous constatez la même erreur sur deux produits identiques? Le commerçant doit corriger l'erreur pour chaque bien, mais un seul sera gratuit ou réduit de 15 $. Gardez l'œil ouvert. Après avoir payé, prenez le temps de vérifier votre reçu de caisse. Si vous constatez une erreur, vous pourrez faire appliquer la politique sur le champ. Vous vous rendez compte de l'erreur après coup? Vous pouvez retourner chez le commerçant et demander le dédommagement prévu par la politique. Affichage des prix. De nouvelles règles d'affichage des prix des aliments sont en vigueur. Certains renseignements doivent être ajoutés à l'affichage des prix, en magasin, sur le web, dans une circulaire, etc., pour indiquer si l'aliment est taxable, le prix courant quand il y a un rabais et le prix pour les non-membres d'un programme de fidélisation, par exemple. Ces indications vous aideront à faire des choix plus éclairés. Recours en cas de problème. Un commerçant refuse d'appliquer la politique d'exactitude des prix à la suite d'une erreur de prix à la caisse. Il refuse de vous faire payer le prix le plus bas dans le cas où la politique ne s'applique pas. Si vous n'arrivez pas à vous entendre avec le gérant ou la personne responsable du commerce, vous pouvez déposer une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Site web opc.gouv.qc.ca. C'était « Affichage et exactitude des prix, ce qu'il faut savoir », un texte de l'Office de la protection du consommateur, paru le 15 mai 2025 dans Virage.
Trois raisons de lire, 11 brefs essais. Une rubrique d'Emmanuel Côté, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. La diversité des voix qui façonnent notre culture. Les éditions, somme toute, ont vu le jour à Montréal en 2013. Elles offrent une multitude de points de vue sur notre société, publiant des essais traitant des enjeux sociétaux contemporains, mais aussi du théâtre, des biographies, des essais féministes et bien plus encore, faisant de leur catalogue un véritable reflet de la diversité. On remarque que les éditions, somme toute, semblent favoriser les échanges en publiant, dès 2015, des collectifs écrits par 11 auteurices racontant leurs expériences. Bref, voici trois bonnes raisons de lire les collectifs 11 brefs essais. 1. La variété des thèmes abordés en lien avec des enjeux d'actualité. L'amour, la beauté, la communauté queer, la justice climatique, l'égalité des sexes, le racisme, l'austérité et la résilience urbaine font partie des thèmes abordés avec brio dans les ouvrages. Chaque essai de la collection explore un sujet différent, offrant une palette de réflexions qui peuvent enrichir notre compréhension, surtout si ceux-ci sortent à des moments où ces enjeux sont particulièrement d'actualité. Par exemple, 11 brefs essais contre le racisme, paru en 2019, s'inscrit parfaitement dans les débats qui ont marqué le Québec autour de la reconnaissance du racisme systémique. En effet, François Legault et d'autres figures politiques ont souvent rejeté ou minimisé l'usage du terme « racisme systémique », préférant parler de discrimination ou de préjugé. Cependant, après la publication du rapport du Comité sur le racisme systémique du gouvernement, on conclut à l'existence du racisme systémique dans certaines institutions québécoises. 2. La pluralité des points de vue. L'une des forces des collectifs 11 brefs essais réside dans la pluralité des voix qui les composent. En voyant les défis auxquels les auteurices ont été exposés lors de différents événements, cela peut motiver les lecteurs et lectrices à s'accepter, alors qu'eux aussi ont une opinion différente de la norme. En réalité, chaque directeur ou directrice de projet semblait non seulement interpréter le sujet à sa manière, mais aussi le redéfinir en l'intégrant à sa propre perception, ce qui faisait que l'approche d'un même problème pouvait se décliner en solutions multiples, uniques et parfois divergentes. Par exemple, Marie-Ève Kingsley, directrice de 11 brefs essais queers, avait comme ligne directrice que les gens puissent lire ce que c'est habiter un corps queer. et qu'ils puissent réfléchir sur leur rapport au monde. On peut, entre autres, lire Matteo Pino nous raconter les difficultés qu'il a rencontrées lors de sa chirurgie. À la manière d'un grand frère ou d'une grande sœur, chaque auteurice nous offre un texte authentique, sans filtre et d'une dimension humaine indéniable. Cette pluralité des points de vue issus de communautés marginalisées stimule le débat et pousse à une remise en question nécessaire. 3. La présence du militantisme à travers les textes. Les essais ne se contentent pas de décrire des réalités sociales. Ils sont également un appel à l'action qui va au-delà de la simple description. En dénonçant les injustices et en offrant des solutions pour une société plus équitable, ces essais se révèlent être de véritables instruments de changement. Par exemple, Éléonore Delvaux-Baudouin et Martine Delvaux, dans la préface de 11 brefs essais pour la justice climatique, soulignent l'urgence de la situation et la nécessité de réagir face à la crise climatique. Nos rêves sonnent l'alerte. Ils nous disent qu'il faut être au rendez-vous. Toutes les nuits, nos rêves insistent. Si c'est bien la fin du monde, préparez-vous à lutter. De plus, chaque texte est un bon outil de vulgarisation de concepts complexes, surtout dans un monde où l'information est abondante, mais souvent fragmentée. Ainsi, c'est à travers de courts textes signés que cette collection est une porte d'entrée vers des discussions. Et même si Chloé, Savoie Bernard, Marie-Lise Hamelin et Steve Gagnon disent que tout n'est pas gagné, au moins chaque auteurice apporte sa propre touche, que ce soit par l'essai, la poésie, la nouvelle ou la réflexion personnelle. De plus, ils sont aussi un moyen de soutenir des causes communes et de renforcer notre sentiment d'engagement envers une société plus juste. C'était 3 raisons de lire, 11 brefs essais. Une rubrique d'Emmanuel Côté, parue le 10 juin 2025 dans Les Libraires.